La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Être préparé pour le retour de Jésus devrait être l'objectif de tout adventiste du septième jour, n'est-ce pas?
Oui.
Amen. J'ai pas entendu. Amen. Ah, vous me rassurez, oui. Mais que signifie être prêt pour le retour de Jésus? Qu'est-il attendu des croyants des derniers jours? Jésus déclara en Luc chapitre 18, verset 8. Où nous rendons-nous? Luc chapitre 18, verset 8.
Oui.
Chapitre 18, verset 8, tout à fait. Rendons-nous, ouvrons nos Bibles, la parole de Dieu, le fondement solide, notre seule sauvegarde, comme nous dit l'esprit de prophétie. Rendons-nous en Luc chapitre 18, verset 8. Et là, Jésus déclare, « Je vous dis qu'il les vengera bientôt, mais quand le Fils de l'homme reviendra, ah, il est question ici du retour de Jésus, n'est-ce pas?
Oui.
Jésus lui-même l'a dit, ce n'est pas moi. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Supposons que Jérémie dise à Aurore lundi matin, « Ma chérie, vais-je trouver de la nourriture en rentrant? » Qu'est-ce que Jérémie veut laisser entendre à Aurore en lui disant cela? Il lui laisse entendre par cela qu'il espère voir le repas préparé lorsqu'il reviendra. N'est-ce pas? D'accord. Et voyez-vous, ce fut la même chose pour Jésus. En parlant de son retour, il laissa entendre, en Luc 18, verset 8, il laissa entendre à ses auditeurs qu'il espérait voir la foi, une foi vivante, quand il reviendrait. Et cette question de Jésus est relié à l'événement décrit au verset 14 du chapitre 14 du livre de la révélation de Jésus-Christ qui est l'Apocalypse. Et nous avons lu ce verset-là ce matin, n'est-ce pas? Et ce verset-là nous parle quoi, si vous vous en souvenez? Si vous ne vous en souvenez pas, on va le reprendre. Ça fait pas de mal. C'est quoi? C'est Jésus-Christ qui revient sous les nuées des cieux pour la moisson, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il y a juste avant ça? Il y a quoi? Non, mais c'est pas bien, c'est que j'ai pas entendu en fait. pas exactement, mais en Apocalypse 14, qu'est-ce qu'il y a avant que Jésus revienne? La triple proclamation, donc le message des trois anges. Et lorsque vous regardez le message du troisième ange, au verset, notamment au verset 12, il nous est parlé d'un peuple bien particulier. Il nous est dit que c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes amis, voilà la réponse à la question posée par Jésus. Jésus posait la question de savoir, mais vais-je trouver la foi sur la terre? Et l'Apocalypse 14, verset 12 nous donne la réponse. Oui, la réponse est oui, il y aura un peuple qui va garder la foi. Mais la réponse est bien complète, la foi de Jésus. En cet instant, le titre de ma présentation est le Fils de Dieu. Mais je vais commencer cette présentation en traitant de la foi de Jésus. Okay? Le Seigneur nous a mis à cœur de traiter ce sujet-là, puisque comme nous l'avons vu vendredi, il fait partie des piliers de notre foi. Mais c'est un sujet qui est tellement large, mes amis, qu'il faut bien plus d'une présentation ou d'une heure pour le présenter. Et même avec les deux heures qu'on va passer donc maintenant, et demain, nous n'aurons même pas fait tout le tour de la foi de Jésus. Est-ce que vous comprenez la foi de Jésus, vous qui êtes ici? Avez-vous déjà entendu parler de cela? Avez-vous déjà entendu une série d'études, un prédicateur vous faire une série d'études sur la foi de Jésus? Vous expliquez la foi de Jésus aussi clairement que les commandements de Dieu? Mes amis, ce n'est pas le cas. Il vous manque un fondement essentiel. Si vous n'êtes pas au clair là-dessus, vous avez une difficulté de manière à pouvoir faire partie des saints d'Apocalypse 14, 12. Et Dieu merci, il fera en sorte que cette difficulté-là soit palliée. nous devrions comprendre la foi de Jésus, mes amis. Comme nous l'avons vu vendredi soir, l'inspiration nous dit que la foi de Jésus est l'un des piliers de notre foi. Et il nous a également été dit que les prédicateurs devraient en parler lors des committings, ou si vous préférez, lors des séminaires. Et c'est pour cela que je vais en parler par la grâce de Dieu. En effet, dans The Review and Herald, le 22 mai 1900, le paragraphe 10-17, la messagère du Seigneur déclara « Dans l'œuvre ayant lieu lors de nos committings, nous devrions mettre en avant les vérités du message du troisième ange. » Excusez-moi, il y a une erreur d'orthographe, il y a un S. « Élever l'étendard, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Faites de cela le thème important. Ensuite, entourez-le par de puissants arguments et rendez-le encore plus vigoureux. Insistez davantage sur l'Apocalypse. Lisez, expliquez et appliquez ses enseignements. » Mes amis, est-ce que nous comprenons la foi de Jésus? Nous le devrions. Lorsque nous considérons le message du troisième ange, nous voyons que les commandements de Dieu et que la foi de Jésus, les commandements de Dieu et la foi de Jésus, que ces deux éléments-là sont opposés à la marque de la bête et de son image. En d'autres termes, pour éviter la marque de la bête et de son image, il nous faut garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Par conséquent, l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus est la seule manière, l'unique et seule manière d'éviter la marque de la bête et de son image. Est-ce que vous avez suivi ce qui vient d'être dit, mes amis? Si quelqu'un n'a pas suivi, qu'il n'ait pas peur de lever sa main et de me dire pour que je reprenne ça parce que c'est archi important. Reprends? Ok. Lorsque nous considérons le message du troisième ange, nous voyons que les commandements de Dieu et que la foi de Jésus sont opposés à la marque de la bête et de son image. Autrement dit, évitez de prendre la marque de la bête. Pour éviter la marque de la bête, il nous faut garder les commandements de Dieu. Puisque le texte dit, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et le texte dit ça après avoir présenté un peuple qui suit la bête et son image. Donc, par déduction, éviter la marque de la bête, c'est garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Est-ce que maintenant tout le monde a compris ça?
Oui.
Donc, je vais redire la phrase finale. C'est que l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus est la seule et unique manière d'éviter la marque de la bête. Mes amis, comprenons-nous la foi de Jésus? Nous le devons. Cela est un devoir, mes amis. Dans ces conditions-là, cela est un devoir. Ce n'est pas une option, mes amis. Cela est un devoir, une nécessité pour notre salut. La question de Jésus en Luc 18, verset 8, était due à la connaissance prophétique qu'il avait des derniers jours. Notre maître savait que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Lisons-nous dans 1 Timothée 4, verset 1, version Louis II, 1910. Et que cela arriverait parce que les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. J'ai combattu le bon combat, dit Paul, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Lisons-nous en 2 Timothée chapitre 4, versets 3, 4 et 7. Et par son serviteur, Paul, Jésus déclara au jeune pasteur Timothée, « Si tu présentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. » En France, on m'appelle Timothée, parce que je suis le plus jeune prédicateur. Et lorsque je lis ces paroles-là, mes amis, je me sens vraiment concerné. Mais je pense que tout un chacun devrait être concerné, quel que soit notre âge. Car, voyez-vous, en tant que serviteur du Seigneur, affermir les croyants dans la foi est le devoir de base que nous avons. En effet, en Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14, il est dit, C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottant et emporté ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Le devoir des pasteurs, docteurs, évangélistes, de tout le corps enseignant, mes amis, c'est de faire en sorte qu'il y ait un peuple qui ne soit pas emporté ça et là à tout vent de doctrine. Après avoir lu ces paroles de la plume de l'apôtre Paul, nous pouvons remarquer que quand il emploie le terme foi, il signifie par là quoi? Doctrine. Dans tous les textes que nous avons lus, quand l'apôtre Paul emploie le mot foi, vous pouvez le remplacer ce mot foi-là par doctrine. Donc, dans ce contexte-là, le mot foi est synonyme de doctrine, mes amis. De la saine, bonne et sainte doctrine. Et il y a plusieurs références qui présentent la foi comme étant un système de doctrine. Et celles qui s'affichent à l'écran en sont quelques-unes. Je ne pourrais pas tout vous prendre, mais vous prenez tous ces textes-là chez vous, vous les analysez un par un, vous verrez que dans tous ces textes-là, vous pouvez remplacer le mot foi par doctrine parce que c'est ce qui est signifié en fait. OK? Donc, oui. Par doctrine. Ils ont pour sens doctrine, en fait. Ils ont pour sens doctrine. Ok. La foi, c'est quoi? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord? La parole de Dieu, c'est pas avec ça qu'on fait la doctrine? Ah, oui. Tu comprends? Aussi, mais il y a plusieurs facettes à la foi. Il y a plusieurs facettes de la foi. OK? Il y a plusieurs facettes. D'accord? Mais vous allez... C'est peut-être nouveau pour vous, et je comprends que certains d'entre vous ne peuvent pas tout saisir parce que c'est nouveau. Mais prenez le temps. Faites comme les Bériens qui examinent chaque jour ce qu'on leur dit pour savoir si c'est vrai. Mais les textes que nous avons lus, si vous vous posez que vous n'avez pas compris cela, vous allez voir que foi est égale à doctrine. Ainsi, si la foi est égale aux enseignements ou à la doctrine, eh bien, la foi de Jésus est alors égale à quoi? À la doctrine de Jésus. C'est clair. Si foi est égale à doctrine, dans une certaine circonstance, alors la foi de Jésus est égale à quoi? À la doctrine de Jésus. Et, mes amis, c'est dans ce sens que va l'inspiration. En effet, dans Manuscript Releases, volume 5, à la page 290, paragraphe 2, la messager du Seigneur déclara la chose suivante. « J'ai vu que les frères et sœurs n'avaient pas compris la foi de Jésus dans sa vraie lumière. Ils ont enseigné que cela était la guérison des malades, etc. Il ne s'agit pas simplement de guérir les malades, mais il s'agit de tous les enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament. » Donc, de la doctrine de Jésus, des enseignements de Jésus. Doctrine égale enseignement. C'est compris? Elle continue en lisant, « Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je vis que c'était l'ensemble du Nouveau Testament, lequel fait le récit de Jésus. » Et ici, je n'ai pas mis une quantité de textes des pionniers adventistes, Joseph B. Thayer Smith, James White, qui vont dans le même sens, en fait. Parce qu'il y a ici des éléments d'une prédication que j'ai déjà faite, mais aujourd'hui, j'ai pris la base de cette prédication pour aller beaucoup plus loin. OK? Tous les pionniers adventistes étaient d'accord avec ce qui vient de Dieu là. Ils disaient quasiment la même chose à toutes choses près. Je vous repose la question. Avez-vous déjà entendu beaucoup d'adventistes du septième jour, modernes, ou des croyants d'autres dénominations, enseigner cela aussi clairement que le fait la messagère du Seigneur? Pour ma part, la réponse est non. Mais pourquoi un tel état de choses? Pourquoi, dans les différentes dénominations, notamment dans l'Église adventiste du septième jour, pourquoi nous n'avons pas une doctrine, un enseignement, un article qui fait plusieurs pages, et même des livres, des dizaines de livres, écrits pour expliquer aux gens la foi de Jésus aussi clairement qu'on l'a fait pour les commandements de Dieu. Pourquoi c'est le cas? Pourquoi en 2017, à l'heure où je vous parle depuis ce pupitre, pourquoi dans l'adventisme, il y a une minorité de personnes qui comprend ce qu'est la foi de Jésus? Que s'est-il passé, mes amis? Est-ce que vous pensez que c'est une petite chose, ça? Cela est un véritable problème, mes amis. Et la réponse que moi, je vous apporte, au pourquoi, c'est peut-être, ou tout du moins certainement parce que la foi de Jésus, la doctrine de Jésus, implique la doctrine du Fils de Dieu, mes amis. Lorsque nous nous rendons en Matthieu, chapitre 26, versets 62 à 64, où nous rendons-nous?
Matthieu
26, versets 62 à 64. Tout à fait. Et à cet endroit-là, nous lisons, Matthieu 26, 62 à 64, nous lisons que, « Alors le souverain sacrificateur se leva et lui dit à Jésus, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, et même, je vous le déclare, dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sous les nuées du ciel. » Mes amis, lors de son procès, Jésus fut faussement accusé et, de manière étonnante, il garda le silence. Mais lorsque le souverain sacrificateur, qui était à cette époque-là Caïphe, le plaça sous serment et lui demanda s'il était le Fils de Dieu, Jésus ne put garder le silence plus longtemps. Et il dut confirmer au souverain sacrificateur et à tout le Sanhédrin réuni qu'il était le Fils de Dieu. Mes amis, le fait que Jésus soit le Fils de Dieu, cela est une part intégrante, si vous préférez, de sa doctrine, de sa foi. Cela n'est pas dissociable, mes amis. Et c'est pour cela que Jésus déclara ce qu'il déclara en Jean, chapitre 7, versets 14 à 16. Où nous rendons-nous? Jean, chapitre 7, versets 14 à 16. Jean, chapitre 7, versets 14 à 16. Nous avons ici la raison pour laquelle Jésus déclara cela. Jean 7, 14 à 16. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Et les Juifs étaient étonnés et disaient, « Comment cet homme connaît-il les Écritures, ne les ayant point apprises ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jésus déclara que les Juifs disaient, « Mais comment sait-il ces choses-là? Il n'a pas enseigné. » Il n'est pas allé à Collonges pour étudier la théologie. Il n'est pas allé à Andrews University pour étudier dans nos écoles. Et comment c'était ces choses-là? Jésus leur a dit la chose suivante. Ma doctrine me vient de mon Père. Et quelle était la doctrine, mes amis, que Dieu le Père donna à Jésus? Parce que mes amis, c'est à cette école-là qu'il faut aller, puisque c'est cette école-là que Jésus a ce cursus-là, c'est ce cursus scolaire que Jésus a suivi. Donc je vous pose la question, quelle doctrine le Père a-t-il donné à Jésus? Quelqu'un pourrait dire, oh, nous n'étions pas dans l'éternité avec eux, oh, donc nous ne pouvons pas le savoir. Mes amis, lorsqu'une armée doit envoyer quelqu'un en mission en pays étranger, ce missionnaire sera instruit avant de quitter son pays. Cependant, une fois qu'il arrive sur le champ, le missionnaire pourrait avoir besoin d'une confirmation. Et évidemment, il ne sera pas instruit tel qu'il le fut avant d'avoir quitté son pays. Mais il peut recevoir les informations mêmes dont il a besoin une fois arrivé en terre étrangère. Vous comprenez cela? Ça a du sens pour vous? Mes amis, avant de venir sur terre, Dieu a dit beaucoup de choses à Jésus. Cela est vrai. Mais la Bible, les Écritures rapportent que le Père déclara à Jésus, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ?» En Hébreu 1, verset 5, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai son père et il sera mon fils. » Les évangiles rapportent que le Père n'a parlé que trois fois. Donc, quand il parle, cela est très important, n'est-ce pas? Lorsque Jésus démarra sa mission dans le champ étranger de cette terre, Dieu n'a pas rappelé à Jésus tous les enseignements qu'il avait reçus au ciel, mais il lui communiqua l'enseignement qui était le plus important pour lui, mes amis. Lequel était « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » La filialité du Christ, mes amis, est la doctrine la plus importante que Jésus a reçue de son Père. Nous pouvons donc comprendre, je vais reprendre par rapport à la moto, nous pouvons donc comprendre pourquoi les évangiles, mais aussi la Bible entière, insistent souvent sur cette partie de sa doctrine. Mais voyez-vous, en dépit de cette clarté, eh bien, certaines personnes déclarent que l'enseignement de la filialité de Jésus n'est pas si simple et que cela, en réalité, cache un mystère. En Jean, chapitre 18, versets 20 et 21, lorsque le souverain sacrificateur l'interrogea concernant sa doctrine, Jésus lui répondit « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où les Juifs s'assemblent de toutes parts. Et je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Ces gens-là savent ce que j'ai dit. » Le mot « ouvertement » dans ce passage, comme vous le voyez affiché à l'écran entre crochets juste après « ouvertement », vient du terme grec « paresia », lequel peut signifier « franchise, franchement, publicité, librement, clairement, ouvertement. » Mes amis, Jésus était en train de dire au souverain sacrificateur la chose suivante. Tu m'interroges concernant ma doctrine, mais ce que j'ai dit dans la synagogue et dans le temple a toujours été clair et franc. Et cela est tellement vrai que ceux qui m'ont entendu sont eux-mêmes capables de t'enseigner ma doctrine. Voilà ce que Jésus voulait dire. Si je paraphrase pour vous faire comprendre sa pensée. Et mes amis, cela se vérifie dans la croyance et l'enseignement des premiers disciples de Jésus. Les apôtres, rendons-nous en Matthieu 16, versets 13 à 17. Où nous rendons-nous? Matthieu 16, versets 13 à 17. Et là, il est dit quoi? Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant, « Que disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres que Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et après, il lui dit quoi? Il a dit que tu es Simon, tu es Pierre, et que sur ce rocher, ce que tu as prononcé, le roc, sur ça je bâtirai mon église. Et c'était quoi ce roc-là, mes amis, qu'il a prononcé? Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà quelle était la croyance des premiers disciples, mes amis. Et ils ne sont pas allés à Collonge, ni à Andrews University pour comprendre cela. Parce que Jésus leur a toujours enseigné clairement. Si bien que ce qu'il disait et que les gens entendaient, c'était sa doctrine et ils pouvaient le croire et s'appuyer dessus et résister au Sanhédrin. Nathanaël également. L'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 49. Nathanaël lui répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Les apôtres, et puis Nathanaël. Mais pensez-vous que cela s'arrête là? Il y a un apôtre dont il faut qu'on parle, l'apôtre Paul, en Actes chapitre 9, verset 19 à 20. Rendons-nous, Actes 9, 19 et 20. Acte 9, verset 19 et 20. Et l'apôtre Paul, ayant mangé, il reprit ses forces et il fut quelques jours avec les disciples à Damas. Et il prêcha aussitôt dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Les apôtres, les disciples, l'apôtre Paul, qui n'a pas marché avec Jésus et qui a reçu tout son évangile par la révélation de Jésus. Ils ont tous prêché, mes amis, que Jésus était le Fils de Dieu. Ainsi, cette croyance du Fils de Dieu était tellement ancrée chez les premiers disciples que l'Église primitive baptisait même les croyants dans le nom de Jésus, et plus précisément dans le Jésus, Fils de Dieu. En effet, au chapitre précédent, Acte 8, versets 36 à 38. Où nous rendons-nous? Acte 8. Tout à fait. Ce n'est pas très long. C'est juste la page avant. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et l'eunuque, répondant, dit, « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et alors, il commanda qu'on arrête le chariot et il descendit tous deux dans l'eau et Philippe et l'eunuque et Philippe le baptisa. On ne peut pas conclure autre chose que Philippe lui a prêché que Jésus était le Fils de Dieu. Et il a simplement confessé que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et là-dessus, il a été baptisé. Est-ce que toutes les églises font ça? Je laisse la question en suspens, la réponse viendra plus tard. Vous l'avez déjà, mais en tout cas, je ne vais pas enfoncer le clou à présent. En fait, mes amis, les premiers disciples adoraient Jésus en tant que Fils de Dieu. Je répète. En fait, les premiers disciples adoraient Jésus en tant que Fils de Dieu et pas autre chose. En effet, en Matthieu, chapitre 14, versets 31 à 33. Où nous rendons-nous? Matthieu 14, 31 à 33. Et découvrons cela pour voir le Jésus qu'ils adorent. Matthieu 14, versets 31 à 33. Et aussitôt, Jésus étendit la main et le prit, lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand il fut entré dans la barque, le vent cessa. Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent en disant, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Attendez mes amis, ils sont venus, tous ceux qui étaient dans la barque, donc les apôtres étaient là, ils sont venus, ils se sont mis à l'adorer, imaginez la scène, ils se sont mis à l'adorer, et à lui dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Mes amis, voici la doctrine qui vient de Jésus. Elle est si claire, elle est si franche, que quiconque l'entend des lèvres de Jésus est capable d'enseigner et de pratiquer la foi de Jésus. Il n'y avait pas de mystère dans la bouche de Jésus, notamment quant à sa filialité. Lors de la présentation de l'inauguration que j'ai faite vendredi soir, nous avons vu que Jésus-Christ a bâti son Église sur lui, et sur lui en tant que Fils de Dieu. Et lorsque nous avons étudié le message du premier ange ce matin, nous avons découvert que l'évangile éternel du premier ange consiste notamment à annoncer au monde, à toute nation, toute tribu et langue et peuple, d'une voix forte, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, puisque en Marc 1:1, on a vu que quoi ? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, virgule. Quoi ? Fils de Dieu, c'est ce qu'on a lu ? C'est ce qu'on a lu, mes amis. Fils de Dieu. Il est donc clair, et même plus que clair, que le Fils de Dieu, et de ce fait, sa doctrine de Fils de Dieu, est le fondement de l'Église chrétienne. Cependant, comme la quasi-totalité des églises dites chrétiennes, l'Église adventiste du septième jour ne croit pas dans ce fondement. En effet, dans le livre « Ce que croient les adventistes », à la page 28 de la version qui est affichée ici, il est dit « Dans le Nouveau Testament, Jésus a utilisé le nom Père pour nous amener à une relation plus intime et plus personnelle avec Dieu. Cela sous-tend que ce n'est que pour cela que Jésus a fait ça. Et cela sous-tend qu'il n'était pas véritablement, littéralement, le Fils de Dieu. Le corps enseignant de l'Église adventiste du septième jour s'est mis d'accord pour dire que lorsque Jésus dit « Père », il ne veut pas réellement dire qu'il est le Fils de Dieu. Mais mes amis, savez-vous comment l'inspiration qualifie les enseignants qui attribuent un sens mystique aux Écritures, tout comme il est écrit là? Est-ce que vous savez comment Ellen White qualifie ça? Remarquez tout ce que nous avons vu dans la Bible, mes amis. Remarquez que tout ce que nous avons vu dans notre Bible, mes amis, tout ce que les disciples croyaient, tout ce qu'ils pratiquaient, le Jésus qu'ils adoraient, remarquez tout ce qui est là. Et d'un côté, on a un livre qui fait des centaines de pages qui nous dit autre chose. Qu'est-ce que vous pensez que l'esprit de prophétie va dire par rapport à ça? Dans la tragédie des siècles, à la page 649 et au paragraphe 2, le messager du Seigneur déclare: les vérités les plus clairement révélées dans les Écritures ont été mises en doute par des savants qui, s'attribuant une grande sagesse, enseignent que les Écritures ont un sens mystique, secret, spirituel, qui ne paraît pas dans les termes employés. Et elle continue. C'est la phrase qui suit, juste après que je me sois arrêté. Elle continue en disant la chose suivante. Ces hommes sont de faux docteurs. C'est à eux que Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En Marc, chapitre 12, verset 24. Et elle continue. Là où il n'y a ni figure, ni symbole, il faut donner aux termes de la Bible leur sens le plus évident. Si quelqu'un veut faire sa volonté, donc la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Jean 7, 17. Si l'on voulait attribuer aux paroles de l'Écriture leur sens propre, s'il n'y avait pas de faux docteurs pour égarer et troubler les esprits, il s'accomplirait sur terre une œuvre qui réjouirait les anges et grâce à laquelle des milliers de brebis qui errent maintenant dans les ténèbres seraient introduites dans le céleste bercail. Autrement dit, c'est parce que l'on spiritualise des textes qui ne doivent pas être spiritualisés, c'est parce que des églises sont remplies de faux docteurs que Dieu maintient des milliers d'âmes à l'extérieur. Mes amis, les véritables docteurs de l'Église du Fils de Dieu n'égarent pas son troupeau. D'après ce que l'apôtre Paul écrivit en Romains, chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en résumé, la foi vient de la parole de Dieu. Amen. Lorsque le Père proclama audiblement du haut des cieux que Jésus-Christ est son Fils, cela ne faisait que confirmer la foi qu'avait Jésus. Il ne lui a pas appris quelque chose. En effet, Jésus était un étudiant de la parole. Et cela se manifeste dans le fait que dans le désert, il a repoussé l'ennemi en lui disant « Il est écrit, il est écrit, il est écrit !» Et l'ennemi est parti. Mes amis, je fais une parenthèse ici. Si le péché règne dans votre vie, il vous faut vous réclamer des promesses de Dieu et repousser l'ennemi par des « il est écrit », par la foi de Jésus, par la parole de Dieu, mes amis. Car la foi de Jésus vient de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si le péché règne dans ta vie, d'une manière quelconque, sache que la victoire est possible pour toi. Amen. Merci, ma soeur. Cela ne faisait que confirmer la foi que Jésus avait. En effet, Jésus était un étudiant de la parole. Et la portion de la parole qui était à sa disposition, de son vivant, était quoi? Le Nouveau Testament? Non, l'Ancien Testament. Lorsque nous nous rendons en Genèse, chapitre 1, verset 26. Où nous rendons-nous? Genèse 1, 26. Et que lisons-nous là? Il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Qui est celui qui a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance? Première question.
C'est Dieu.
Et à qui l'a-t-il dit? D'où me sors-tu ça, ma sœur? Quelle école de théologie as-tu fait pour me sortir ça?
Je n'ai pas fait.
Tu n'as pas fait?
Non.
Comment? Tu as écouté Jésus alors?
Ben, j'y crois ce que la Bible dit.
Ah, amen. Alors, moi, je vais vous dire où Jésus a appris ça. Rendons-nous en Proverbe 30, verset 4. Proverbe 30, verset 4. Proverbe 30, verset 4. Et même, nous lirons à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Pour avoir un peu de contexte, pour bien comprendre la chose. Il est dit ici, Proverbe 30, verset 2 à 4, « Certainement, je suis le plus borné de tous les hommes. » Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je n'ai pas la connaissance de ce qui est saint. Écoutez bien verset 4. Hein. Qui est monté aux cieux ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Amis, les véritables juifs savaient que Dieu avait un fils. Autrement, ce texte n'existerait pas. Donc, si ce n'était pas le cas avant, maintenant, vous savez qu'avant de venir sur terre, Jésus était déjà le fils de Dieu. Et plus en avant, dans le livre des Proverbes, nous apprenons autre chose concernant le fils de Dieu. En effet, en Proverbes, chapitre 8, versets 22 à 25. Où nous rendons-nous? Ok. Et il est dit là quoi? L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux. Comme nous l'avons vu vendredi, nous avons considéré 1 Corinthiens 1, verset 24, où il nous est dit que Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Et là, il est question de la sagesse de Dieu. Et lorsque vous lisez le commentaire d'Ellen White, en Patriarche et Prophète, Ellen White dit qu'ici, on parle de Jésus-Christ. Alors qu'à Andrews University, à Collonges et en tous les autres, on nous dit que non, c'est pas, on ne parle pas de Jésus ici. Le verbe hébreu qui fut traduit ici par « engendrer » est employé dans ce verset dans la forme « poulal », c'est-à-dire la forme rare. Et la définition pour la forme « poulal », mes amis, est l'unique définition qui puisse être appliquée ici. Et cette définition est la suivante. Être fait pour se tordre, être fait pour porter, et être engendré. Et dans cette forme, ce verbe n'est employé qu'à trois endroits dans la Bible. Et les versets suivants en sont les deux autres endroits. Job 15, verset 7. Es-tu le premier-né des hommes? As-tu été formé, hébreu, forme poulal, avant les montagnes? Et dans Psaume 51, verset 5. Voilà, j'ai été formé, en hébreu, forme poulal, dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Comme vous pouvez clairement le voir, mes amis, le terme engendré en Proverbe 8, versets 24 et 25 ne peut que signifier être engendré ou né. Si Proverbe 8, 24 et 25 parlait simplement d'une sagesse intellectuelle, alors vous devriez conclure qu'il y eut un temps où Dieu acquit la sagesse et qu'avant ce temps, il n'avait pas de sagesse. Donc, il était fou. Mais non, mes amis, ces versets ne peuvent pas parler de cela, mais bien de l'origine du Fils de Dieu. Et voyez-vous, saisir cela est important. Car c'est ce qui nous permet de bien comprendre Jean 3, verset 16. Ouvrons nos Bibles en Jean 3, verset 16. Vous le connaissez, je pense, hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils,
hein? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le Nouveau Testament de la Bible que j'utilise, la version Osterwald, est traduit à partir du Textus Receptus. Et le terme traduit par « fils unique » vient du grec « monogenes ». Et ce terme est composé de deux mots. « Monos » qui signifie « un » ou « le seul » et, deuxièmement, « genes » qui signifie « naissance » ou « génération ». Et donc, littéralement, monogenèse signifie le seul engendré, en fait, ou le seul né. Ainsi, d'après ce verset, Jésus déclare qu'il est le Fils unique engendré de Dieu. En fait, il y a cinq autres versets dans le Nouveau Testament où monogenèse est employé en rapport avec Jésus. Nous allons tous les afficher ici. Jean 1, 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, monogenèse, donc unique engendré, venu du Père. » Jean 1, 18, c'est quelques versets après. « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, monogenèse, donc unique engendré, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Jean 3, 16, on l'a déjà lu. Jean 3, 18, qui dit « Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique, monogenèse, unique engendré, de Dieu. » Et le dernier là, « L'amour de Dieu envers nous, 1 Jean 4, verset 9, « L'amour de Dieu envers nous apparu en ce que Dieu a envoyé son Fils unique, monogenèse, c'est-à-dire unique engendré, dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Le fait que toutes les Bibles francophones traduisent monogenèse par unique est dû à la nouvelle théologie chrétienne qui, tout comme les Juifs de son époque, de l'époque de Jésus, n'admettait pas que Jésus puisse avoir été engendré du Père dans l'éternité passée et qu'il serait ainsi devenu l'égal de Dieu. Parce que lorsque Jésus disait, lorsqu'il appelait Dieu son Père, se faisant ainsi le Fils de Dieu, les Juifs comprenaient tout de suite qu'ils se faisaient l'égal de Dieu. Il existe 4 autres versets où monogénèse n'est pas employée en rapport avec Jésus. Donc tout ce que nous venons de dire là était employé par rapport à Jésus. Mais il existe 4 versets où monogénèse n'est pas employé en rapport avec Jésus. Et voyez-vous, l'un d'entre eux est employé par les théologiens modernes pour dire que monogénèse ne signifie pas unique engendré. Et ce verset est Hébreux 11, verset 17, que je vous invite à prendre. Bien que je vais l'afficher, mais prenez-le, parce que vous allez comprendre pourquoi. Prenez, ouvrez vos Bibles en Hébreux 11, verset 17. Il est dit, par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé, et que celui qui avait reçu les promesses offrit son unique, c'est-à-dire monogénèse, donc unique engendré. Mes amis, Ismaël était également le fils d'Abraham, disent les nouveaux théologiens. Et ils ont raison, Ismaël était également le fils d'Abraham. Et donc les nouveaux théologiens disent que par rapport à cela, on conclut, et on doit conclure, que monogénèse ne peut pas signifier unique engendré. Voilà ce qu'ils disent. Mais mes amis, cela est incorrect. Car au verset suivant, au verset 18, l'apôtre Paul donne la condition pour monogénèse. Dans quel contexte il applique monogénèse? Lisons le verset 18 à présent. « Dont il avait été dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. » Isaac était le fils unique engendré d'Abraham, à qui la promesse de la postérité avait été donnée. Donc, l'argumentation des théologiens ne tient pas, parce qu'ils enlèvent la condition qui est qu'on parle de la promesse. Et Isaac était bien le seul fils unique engendré d'Abraham, d'après lequel ou par lequel devait s'accomplir la promesse. Vous comprenez ça? Encore une fois, tout texte ôté de son contexte devient un prétexte. Et certains de ceux qui reconnaissent que monogénèse signifie unique engendré disent qu'il ne s'agit pas d'une naissance ayant eu lieu dans l'éternité, mais de celle ayant eu lieu à Bethléem. Mais voyez-vous, mes amis, cela est faux pour au moins 2 raisons. Premièrement, comme nous l'avons vu dans le livre des Proverbes, le Jésus qui participa à la création était le Fils de Dieu engendré, n'est-ce pas? Ce qui signifie que l'engendrement de Jésus est antérieur à la création, n'est-ce pas? Et oui. Deuxièmement, en Jean chapitre 3, verset 16, il n'est pas dit que c'est en vertu de son amour pour le monde que Dieu engendra un fils, afin de nous le donner. Ce n'est pas ce qu'il a dit, mes amis. Mais que c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique engendré. Cela implique, bien aimé, que Dieu avait déjà un fils unique engendré à donner. Et quand est-ce que Dieu a donné ce fils? Jésus-Christ nous le dit dans sa révélation, Apocalypse 13, verset 8, dans la version Martin 1744. « De sorte qu'elle sera adorée par tous ceux qui habitent sous la terre, desquels les noms ne sont point écrits au livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Oui, Anne-Marie. Amen. Alors effectivement, lorsque Jésus dit ça, en fait, il faut comprendre quelque chose. C'est Jésus qui est allé vers le Père pour vous dire que je vais me donner pour la race humaine. Mais Dieu a donné son fils quand même. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu aurait pu dire non et empêcher que ça se passe. Mais Dieu ne l'a pas fait. Tu imagines ça? Vous imaginez ça, mes amis? Dieu le Père a accepté. Il aurait pu dire non. Mais il a accepté l'offre de son fils. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'Abraham a vécu avec Isaac, mes amis. C'est exactement ce que Dieu a vécu. Et je peux vous dire, mes amis, que Abraham n'était pas un trinitaire. Parce qu'en faisant ça, Abraham a compris tout à fait c'était quoi la divinité et comment ça fonctionnait. Et il a pleinement compris l'amour de Dieu, mes amis. On ne peut pas comprendre l'amour de Dieu si on croit en une idole
que l'on appelle Trinité. Et on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu, mes amis. On ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. On ne peut pas être des enfants d'Abraham si on suit ça. Ce n'est pas possible.
Donc, remarquez que Jésus a été immolé dès la fondation du monde. Or, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, Dieu l'a donné dès la fondation du monde, en fait. Okay? Dans les plans, dans les conseils, comme on le sait. Étant donné la limite de temps qui m'est impartie, je ne pourrais pas couvrir tous les aspects de la doctrine du Fils de Dieu durant cette heure. Mais pour l'heure, nous devons conclure. Connaître Jésus en tant que Fils de Dieu est une question de vie ou de mort. Jean 17, verset 3 nous dit, « Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. » 1 Jean 2, verset 22 et 23 nous dit, « Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Fils, est le Christ ?» Celui-là est l'Antichrist qui nie et le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean 5, verset 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Si je vous dis qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, que Dieu est incapable de faire, je pense que vous allez dire, mais ce petit jeune homme-là est un faux docteur. Parce qu'il est en train de nous dire que Dieu ne serait pas tout puissant et qu'il ne serait pas capable de tout faire. Si vous pensez ça, je vous invite à considérer la chose suivante. Car il y a une chose, mes amis, une chose, une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Il en est incapable. Il y a une chose qui existe que Dieu est incapable de faire. En vue de l'espérance, Tite 1, 2, en vue de l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant les temps éternels. Mes amis, Dieu est incapable. Il n'a même pas la capacité de pouvoir mentir. Vous vous rendez compte?
Il n'a pas dû penser non plus.
C'est-à-dire?
Il n'a pas dû penser qu'il fallait mentir non plus.
Il en est incapable. Techniquement parlant, si je puis dire ainsi, la divinité n'est pas capable de mentir, mais, mes amis. Dieu ne peut pas mentir, mes amis. Dieu ne peut pas mentir. Mes amis, le Dieu qui ne peut pas mentir a dit la vérité lorsqu'il a déclaré que Jésus-Christ est son Fils. Et Jésus, qui, d'après sa révélation, l'Apocalypse, est le témoin fidèle et véritable, lui non plus ne ment pas en affirmant à des dizaines de reprises dans l'Ancien Testament et aussi également à travers ses apôtres, en affirmant qu'il est le Fils de Dieu. Lorsque nous pensons à une trinité, mes amis, nous faisons Dieu menteur et nous disons que Jésus-Christ n'est pas le témoin fidèle et véritable. Et vous savez pourquoi? Puisque c'est lui qui parle aux églises. Et à la fin, il dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. En fait, on ne peut pas reconnaître cet Esprit qui nous parle comme étant Jésus qui nous parle. Mes amis, la divinité ne ment pas. Elle en est incapable. Le Jésus dont nous parle la Bible n'est absolument pas la deuxième personne de la Trinité, mais bel et bien le Fils unique engendré de Dieu. Maintenant, il se pourrait que vous ne soyez pas d'accord avec la présentation biblique que je vais réaliser durant cette heure. Et si tel est le cas, permettez-moi de vous dire humblement, mais avec assurance, qu'il n'y a pas qu'avec la Bible que vous ne serez pas d'accord. En effet, dans le périodique Sign of the Time, à la date du 30 mai 1895, Ellen White déclara que Dieu a tant aimé le monde qu'il donna le seul fils qu'il avait engendré, ou son seul fils unique engendré. Et il y a un tiret En anglais, ce tiret-là signifie que ce qui suit, c'est l'explication de ce qui précède. Non un fils par création, comme le furent les anges, ni un fils par adoption, comme l'est le pécheur repentant, mais un fils unique engendré à l'image expresse de sa personne. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus est fils de Dieu, mais ils disent que Jésus a été créé. Mes amis, Jésus n'a pas été créé. Jésus est littéralement le fils de Dieu. Et étant le fils de Dieu, il ne peut qu'être Dieu et donc être l'égal de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Si vous ne comprenez pas, il faut le croire, parce que c'est ce que la Bible dit. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, deuxième déclaration. Dans The Spirit of Prophecy, volume 1, page 24 et 25, Ellen White déclara: dès que la terre fut créée et peuplée d'animaux, le Père et le Fils mirent à exécution le dessein qu'ils avaient conçu avant la chute de Lucifer. Deux points. Créer l'homme à leur image. Ils avaient collaboré dans la création de la terre et de toute créature vivante. Alors, Dieu dit à son Fils. C'est qui le Dieu là qui parle? Le Père? Dieu le Père, oui. Il a dit à son Fils. C'est qui son Fils? Jésus? Oui. Faisons l'homme à notre image. Lorsque Dieu dit à Jésus, Jésus, faisons l'homme à notre image. Genèse nous dit, à la fin du verset, il fit l'homme à son image. Il le créa mâle et femelle. Du point de vue de la relation, bien-aimé, et je parle bien du point de vue de la relation, le couple, mâle et femelle, l'homme et la femme, est une illustration de la relation entre Dieu et Jésus, au niveau relation. Je m'explique. Jésus dit qu'il prend son nom du Père. Ok? La femme, quel nom qu'elle porte? Le nom de son mari. La femme a été tirée de la côte d'Adam. Jésus a été tiré du Père. Je pourrais continuer à vous faire une liste de similitudes comme ça, de parallèles, pour vous montrer, mes amis, que le couple a été créé à l'image de la divinité. Deux points. Dieu le Père et Jésus-Christ, son Fils. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Lorsque vous n'avez pas cette compréhension, votre foyer ne peut pas bien fonctionner. Parce que vous êtes incapable de reproduire la paix qu'il y a entre Dieu et Jésus. Parce que lorsque l'on croit à la Trinité, il y a trois qui sont égaux et qui ne se soumettent pas l'un à l'autre. Il y a des gens qui m'ont dit: oui, mais l'enfant, les enfants, ce sont le troisième, qui font le troisième. Donc, ça représente le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit qu'il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Si on veut aller au-delà, c'est votre problème. Mais moi, je reste sous le texte, mes amis, car c'est ma seule sauvegarde. Voilà pourquoi les foyers sont si maladifs. C'est parce qu'ils n'ont rien à contempler qui soit quelque chose de solide. Vous savez, on est transformé à l'image de ce que l'on contemple de l'apôtre Paul. Lorsque vous contemplez une trinité, mes amis, vous aurez des femmes qui vont vouloir dominer sur leur mari, alors que la Bible dit que le mari est censé être d'abord un modèle, mais aussi le chef du foyer. Et pourquoi cela? Parce que le Père est le responsable de l'univers, mes amis, et que Jésus-Christ lui est soumis. En ce moment, Jésus-Christ est le dirigeant de l'univers. Mais en 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit que lorsque toutes choses lui auraient été soumises, alors le Fils lui-même, avec tout ce qui l'aura soumis, il va se soumettre au Père. En ce moment, Dieu a fait Jésus gouverneur de l'univers. Mais avant la chute de l'humanité et après la restauration, ce sera le Père qui sera reconnu comme étant régent. Mais Christ sera toujours reconnu comme étant régent. Et ce, parce que, et Ellen White le dit dans The Great Controversy, à la page 493, paragraphe 1. Et je vous invite à comparer cette lecture avec la Tragédie des siècles, à la page 536, paragraphe 1. J'ai traduit le texte de l'anglais parce que la version française n'est pas correcte. Avant l'entrée du mal, Il y avait la paix et la joie dans tout l'univers. Tout était en accord parfait avec la volonté du Créateur. L'amour pour Dieu était suprême et l'amour pour les autres était impartial. Christ, continue-t-elle, la parole, l'unique engendré de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris le français. Parce que dans le français, le traducteur de la Tragédie des siècles a dit le Fils unique. Mais ici, Ellen White, dans l'anglais, vous pouvez vérifier, elle ne dit même pas le Fils unique engendré. Elle dit l'unique engendré, en fait. C'est tellement vrai que vous pouvez même enlever le mot fils et dire l'unique engendré, mes amis. Elle dit, Christ, la parole, l'unique engendré de Dieu, était un avec le Père. Tiret, donc ce qui va suivre, c'est une explication de ce qui précède. Un en nature, en caractère et en dessein. Voilà. Le seul être dans tout l'univers qui pouvait entrer dans tous les conseils et les desseins de Dieu. Par Christ, le Père opéra la création de tous les êtres célestes, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Colossiens 1, verset 16. Et comme au Père, les cieux donnaient allégeance au Christ. Mes amis, Dieu a tout créé par Jésus. Arrivé ici, vous pourriez me dire, oui, mais on a un problème. Parce que, en fait, tu serais en train de nous dire là que Jésus, à un moment, il serait arrivé à l'existence. Si vous pensez cela, permettez-moi de vous dire la chose suivante. Colossiens 1, quand vous lisez tout le chapitre, on nous dit que Jésus a créé les choses visibles et les invisibles, n'est-ce pas? Dieu a tout créé par Jésus, les choses visibles et les invisibles. Qu'est-ce que vous pouvez ranger parmi les choses invisibles, les choses qui ne se voient pas? L'air, ok.
Le vent.
Le vent,
L'esprit.
L'esprit, oui. Et le temps, alors. Et le temps. Vous et moi sommes soumis au temps. Mais Jésus a créé toutes choses. Dieu, par Jésus, a créé toutes choses. Le temps y compris. Jésus est hors du temps, mes amis. Vous et moi, lorsque nous pensons à l'engendrement de Jésus dans l'éternité, nous ne pouvons pas saisir cela, mes amis. Car vous et moi, nous sommes soumis au temps. Mais Jésus n'est pas soumis au temps. Jésus a même créé le temps, mes amis. La notion de temps. C'est pour cela que les pionniers adventistes ont toujours dit que Jésus a été engendré dans l'éternité passée. On ne peut même pas dater ça, mes amis. Ça nous dépasse. Je ne peux même pas penser à ça. Qui suis-je pour vraiment vous penser à ça, mes amis? Je n'ai pas à me soucier de cela. Tout ce dont j'ai à me soucier, c'est de la doctrine de Jésus. D'un « il est écrit », mes amis. Collonges n'a pas de « il est écrit », mes amis. Andrews University n'a pas de « il est écrit » pour défendre la Trinité. Ils n'ont pas de texte ici pour défendre la Trinité, mes amis. Il n'y a pas ça, mes amis. Par contre, les humbles personnes que nous sommes, lorsque nous nous agenouillons et que nous nous mettons devant le Fils de Dieu pour recevoir son enseignement, nous avons quantité de textes, mes amis, qui, comme les apôtres, si nous nous écoutons, nous donnent la doctrine de Jésus, mes amis. Et c'est ça qu'il nous faut accepter, mes amis. Et ce que Dieu a révélé, c'est pour nous et pour nos enfants. Mais ce qu'il n'a pas révélé, ce n'est pas à moi de le sonder. Revenons à notre conclusion, parce que là, nous concluons. Après tout ce que nous venons de voir dans notre seule sauvegarde, après tout ce que nous venons de voir dans la source d'autorité suprême pour notre foi, et après ce que nous avons vu dans les commentaires inspirés, je voudrais vous poser la question suivante. Quel Jésus avez-vous servi jusqu'ici? Faisons bien attention, mes amis. Faisons bien attention, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul. Et nous avons vu qu'il s'agit de Jésus-Christ, Fils de Dieu, mes amis. Car Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus a dit, oui Simon, tu es Pierre, et sur ce rocher, ce que tu as prononcé, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon Église. On ne peut pas poser d'autre fondement que Jésus-Christ, Fils de Dieu, mes amis. Cher bien-aimé, si vous désirez donner votre vie au Fils de Dieu, au Seigneur et Sauveur, à votre Seigneur et Sauveur, parce que voyez-vous, mes amis, les églises peuvent enseigner plein de choses. Les églises peuvent écrire beaucoup de livres et remplir des librairies. Et comme un ange volé par le milieu du ciel et annoncé à travers les chaînes de télévision qu'ils ont créées, Free Behind, Hope Channel, ainsi que les radios qu'ils ont créées, elles peuvent remplir la terre entière en disant que oui, la Trinité, c'est le Dieu de l'univers. Mes amis, cela ne fera pas de ce mensonge de la Trinité de Jésus-Christ. L'Église catholique est mondialement connue et elle enseigne la corruption. Comme on l'a vu, par son apostasie, elle détruit les fondations. Et pourtant, ce qu'elle enseigne ne fait pas de cela la vérité. Mes amis, si vous désirez donner votre vie à Jésus-Christ, Fils de Dieu, celui qui est enseigné dans les Écritures, celui que vous trouvez sans l'aide de Collonges et de Andrews University, celui que, même si vous n'avez pas fait d'études de théologie, vous n'avez pas étudié le grec et l'hébreu, que vous pouvez adorer simplement comme le faisaient les disciples dans la barque, qui n'avaient même pas étudié, qui étaient illettrés. Ce Jésus-là, mes amis, si vous voulez le servir et l'adorer, alors je vous invite à vous agenouiller avec moi et à prier. Notre Dieu, notre Père, comme Jésus a dit avant de s'en aller, je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Alors nous t'appelons Père. Nous voulons, Seigneur, nous comprenons de par l'Écriture, qui est si simple à comprendre, que des faux docteurs ont tâché de nous déformer à nos yeux. Nous voulons, eh bien, reconnaître et accepter comme tout les disciples de l'agneau l'ont fait, reconnaître et accepter Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Et de ce fait, accepter la foi de Jésus. Car lorsque Jésus reviendra sur terre, il regardera et il cherchera qui est-ce qui aura sa foi. Et nous comprenons que cela en fait partie. Tendre Père, merci de bien vouloir eh bien, nous aider à comprendre que tu n'enlèves pas également toute occasion de doute, mais que tu nous demandes de baser notre confiance sous le poids de l'évidence, comme le dit la messagère. Et lorsque l'on regarde les évidences, les choses sont si claires. Les choses sont si claires pour nous. Tu nous as si clairement révélé les choses. Alors merci Père pour ces révélations. Et merci de nous donner la victoire. Cette victoire qui se trouve en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Merci pour tout. Merci pour ce Saint Sabbat que tu nous as accordé. Merci pour cette bénédiction. Veuillez nous garder pour la semaine qui est tout doucement en train de s'approcher et veuille nous faire du bien. Nous t'en prions dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.